Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Marc Copé, je suis violoncelliste et j'ai le plaisir d'être là parmi vous pour présenter cette intégrale des suites de Bach avec aujourd'hui la moitié de la classe, de ma classe au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Je crois qu'il y a une collaboration maintenant depuis quelques années entre le Conservatoire et la BPI, un concert par an. Celui-là est particulièrement important, enfin, ce seront même deux concerts, comme vous le savez certainement. Un ce soir, la première moitié de l'intégrale, et le deuxième avec la deuxième moitié de la classe pour les suites 4, 5 et 6 demain soir à la même heure. Alors, vous voyez que les choses sont bien organisées. Il y a 6 suites et j'ai 12 élèves. Donc, nous les avons partagées, ces suites. Ils vont jouer chacun une moitié, un prélude de danse, et puis le suivant jouera les trois dernières danses. Suite, on l'oublie peut-être, tout simplement, ce sont des suites de danse. Toujours composé dans le cas de suites pour violoncelle de la même manière, au sens de la même structure, un prélude, puis une allemande, une courante, une sarabande. Une allemande, c'est une danse assez modérée, presque lente, en tout cas modérée, c'est le mot, je crois. Et puis, à quatre temps, la courante, qui est une danse à trois temps, qui est une danse beaucoup plus alerte, comme son nom l'indique, très contrastée par rapport à l'allemande. Une sarabande, alors la sarabande, c'est une histoire assez amusante parce que la sarabande, on pense que c'est une origine probablement européenne qui part en Amérique du Sud. Ça devient une danse un peu canaille en Amérique du Sud et ça revient en Europe et ça devient la danse méditative, presque religieuse par essence. C'est la danse lente, c'est le moment au cœur de la suite, le moment de méditation, le moment lent. Une danse à trois temps avec un appui particulier sur le deuxième temps. Ce qui lui confère ce caractère suspensif et particulièrement beau et propre à la méditation. Ensuite, la seule différence parmi les six suites, les deux premières sont composées après la sarabande d'un menuet, contiennent deux menuets, troisième et quatrième, deux bourrées. Alors, contraste, danse de cour pour le menuet, bourrée, danse paysanne, et puis, suite 5 et 6, des gavottes. Avec toujours la même structure, première gavotte, deuxième gavotte, da capo à la première gavotte. C'est pareil pour les bourrées et les menuets. Là, vraiment, là, l'essence même de la danse, avec une certaine légèreté, un côté plus joyeux, plus rythmique, après cette fameuse sarabande. Ce sera la seule différence, puisque après, toutes les suites se terminent par une gigue. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur les suites. C'est pour nous, violoncellistes, et je ne crois pas seulement pour les violoncellistes, l'alpha et l'oméga de notre répertoire. Le violoncelle est un instrument qui s'affirme beaucoup à la fin du XVIIe siècle, mais l'instrument roi, l'instrument à cordes roi, on l'oublie peut-être un peu aujourd'hui. À cette même époque, c'est plutôt la viole, que ce soit en France, en Allemagne, et même d'une certaine manière en Italie. La viole, qui est un instrument dont le répertoire est très riche, dont l'expressivité est très développée et qui est louée pour ses qualités expressives, justement. On oublie peut-être qu'à l'époque, il y avait moins d'hierarchie entre la polyphonie donnée par les instruments à clavier, comme le clavecin, l'orgue, et les instruments à cordes. Parce que précisément, un instrument comme la viole est un son qui permet la polyphonie et en même temps qui a des qualités expressives que les claviers n'ont pas. Alors, c'est un instrument fêté et que Bach connaît, pour lequel il écrit beaucoup, mais en même temps qui a ses limites, notamment en termes de puissance, en termes de dynamique, hein, qui est un instrument fragile. Et le violoncelle, bientôt, va prendre le dessus, parce que, notamment, des gens comme Bach se rendent compte de tout ce qu'on peut faire avec un violoncelle. Pour autant, il y a des éléments qui nous font penser un petit peu à la viole. Donc, alpha et oméga, parce que c'est le début du violoncelle, c'est l'aide de noblesse de cet instrument, et en même temps, ça reste la somme à laquelle tous les violoncellistes aiment se mesurer tout au long de leur vie. Ici, dans le cas de ce concert, ce sont des jeunes violoncellistes, mais déjà des talents très confirmés, puisque, vous le savez certainement, c'est difficile de rentrer au Conservatoire de Paris, donc ce sont des jeunes professionnels, et non pas seulement des étudiants. Mais c'est une œuvre avec laquelle on vit, je crois, toujours. Elles sont donc ces six suites, c'est vraiment un corpus fini. À la fin, d'ailleurs, Bach écrit sur le manuscrit, enfin, c'est la copie du manuscrit, puisque nous n'avons malheureusement que la copie de sa femme, Anna Magdalena, la fin des suites. Donc il est certain qu'il n'a jamais voulu écrire une septième suite. Six suites, c'est comme les six brandebourgeois, c'est comme les six suites françaises, c'est comme les six suites anglaises. Chiffre la moitié de 12, les 12 apôtres, les 12 demi-tons de la gamme, on peut faire beaucoup de numérologie avec Bach, et puis surtout, on reste au seuil de la perfection du chiffre divin, qui est 7. et qui est le chiffre dans lequel, je crois, on ne s'aventure pas. C'est aussi 6 mouvements, ce n'est pas un hasard. Il y a certainement une valeur symbolique des tonalités. Certains font beaucoup d'interprétations là-dessus, certains pensent qu'il faut peut-être laisser ça de côté. Moi, je pense que ce n'est pas inintéressant, même si ça ne fait pas tout. La première suite en sol majeur, G-dur, en allemand, le G de sol, puisque les lettres en allemand sont des notes de musique, c'est la même lettre que Dieu, Gott, et c'est certainement pas un hasard pour ce commencement. C'est vraiment le commencement, ou commencement la suite, pourrait-on dire. Et puis, exploration harmonique de l'instrument, beaucoup de cordes à vide, ces cordes libres qui résonnent beaucoup, peu de virtuosité, mais en réalité, peut-être une des suites les plus difficiles, dans sa simplicité, dans son dénuement. La deuxième est une suite beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique, Ré mineur, c'est la même tonalité que la chaconne, c'est la même tonalité qui est écrite au moment de la mort de sa femme, c'est la même tonalité que le Requiem de Mozart. Enfin, dans la musique allemande, c'est une tonalité symboliquement liée souvent à la mort ou au deuil, en tout cas. Suite très vigoureuse, très intense et très sombre. Do majeur, alors là, c'est les 4 cordes de l'instrument qui résonnent au maximum de leur capacité, et puis avec une signature de Bach, qui écrit ses lettres à la fin du prélude, si bémol, la, do, si, b, a, c, h, et qui ornemente autour de ses lettres. Donc un peu au cœur de la suite, au cœur du recueil des 6 suites, et qui pourrait être une fin, en fait, d'une certaine manière, il écrit son nom. Il a un peu dit tout ce qu'on pouvait faire simplement avec un violoncelle, et puis avec la 4e, la 5e et la 6e, d'une certaine manière, il réinvente le violoncelle. Mi bémol majeur, la tonalité de la 4e suite, c'est une tonalité un peu un contre-courant, difficile, beaucoup plus difficile à faire sonner, qui est plutôt une tonalité pour l'orgue, pour d'autres instruments, qui fait beaucoup penser à l'écriture de clavier, qui du coup est très ardue, très difficile, mais qui est très puissante et je crois qui contient une force assez tellurique comme ça. La 5e suite, on retombe dans une tonalité mineure, donc au cœur. Une majeure, une mineure, une majeure, une majeure, une mineure, une majeure. La 5e suite, ut mineur, autre tonalité funèbre à bien des égards, peut-être plus violente, plus âpre que la 2e suite. La seule suite dite à la française, avec beaucoup de rythmes pointés, avec un prélude et une fugue, une courante à la française, des danses très contrastées et ce qu'on appelle une scordatour, c'est-à-dire l'instrument est désaccordé, do, sol, ré, la devient do, sol, ré, sol. On introduit une carte, c'est peut-être un peu technique, excusez-moi, mais c'est important parce que justement là, on a ce rapport avec la viole qui s'affirme et la musique française que Bach connaissait, aimait beaucoup, il aimait Couperin. Et là, il y a aussi un hommage, ou en tout cas peut-être un lien entre la viole un peu moribonde et le violoncelle qui prend son envol. La 6e suite, alors là, il prend encore plus son envol parce que Bach ne se satisfait pas de la tessiture de l'instrument, il rajoute une corde. Alors vous l'entendrez demain avec 4 cordes et non pas 5, on peut arranger ça avec des doigtés particuliers, mais ça veut dire que là, on a vraiment le violoncelle tel qu'il est devenu aujourd'hui, l'instrument moderne d'aujourd'hui, avec une tessiture extraordinaire, très vaste, de l'extrême grave, la voix humaine basse, à l'extrême aigu. Et peut-être ce qui a fait le succès du violoncelle jusqu'à aujourd'hui encore, c'est justement cette incroyable taille de la tessiture qui permet d'avoir beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambitus sonores, comme un arc-en-ciel dans cette tonalité de Ré majeur qui évoque là plutôt la résurrection. Je vous souhaite un bon concert, deux bons concerts, et peut-être on n'oublie pas d'éteindre les portables. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.